Bonjour, c'est Zoé de Louis. Devenir parent, c'est ouvrir la porte vers une nouvelle vie pleine de changements et vers un nouveau rythme qui est parfois compliqué à gérer. Comment continuer à sortir après la naissance de son enfant? Et comment trouver des lieux appropriés? Evian, l'eau parfaitement adaptée aux besoins d'hydratation des bébés qui soutient ce podcast, a recensé avec l'aide de jeunes parents les adresses idéales à Paris, Lyon et Marseille pour sortir avec ses enfants. Evian soutient les nouveaux parents dans leur mode de vie et leur approche de la parentalité. Un peu comme Fête des Gosses finalement. Merci à Evian pour leur soutien et bonne écoute.
Louis. Je me souviens d'une réunion, bien avant la sortie du premier épisode de Fête des Gosses. Quelqu'un a proposé un sujet, apprendre à lire, pourquoi attendre? Et je me souviens très bien de ce que je me suis dit. Parce qu'il y a un temps pour tout, non? Pourquoi j'irais apprendre à lire à mon bébé de 2 ans, alors que l'école peut s'en charger pour moi? Et puis mon bébé a grandi, et je suis moi aussi passée dans la catégorie de ceux qui ont des lettres aimantées sur leur frigo. Abel a 2 ans et demi, et je commence à lui apprendre le son des lettres. M comme maman, P comme papa, Q comme caca. Et oui, il faut ce qu'il faut. Cet été, dans une librairie marseillaise, j'ai demandé un livre qui aiderait mon fils à entrer dans la lecture. Et quand la libraire m'a demandé des précisions sur ce que je souhaitais, l'ami qui m'accompagnait s'est moqué. L'idée, c'est qu'il entre à Harvard le plus vite possible. Est-ce que c'est vrai? Est-ce que je veux qu'il prenne de l'avance? Est-ce que j'ai perdu toute confiance dans l'école pour assurer cet apprentissage? Pourquoi je me précipite? Ma démarche m'a paru un peu absurde, et pourtant, je l'ai acheté, ce livre. Est-ce que c'était vraiment trop tôt? Je suis
M-A-M-A-R-I-R-I-N-E-R-E-V-O-L.
Bienvenue dans Fête des Gosses.
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 Ouais, Fête des Gosses.
Fête des Gosses.
Fête des Gosses.
Je pense qu'on a fait passer dans les esprits que la lecture, c'est quelque chose de compliqué, de fastidieux, de laborieux, de pénible. Donc je pense qu'il y a une anxiété en fait chez les parents qui veulent anticiper la chose et apporter des éléments qui peuvent rendre cet apprentissage le plus léger possible. Je pense que c'est comme ça. Mais c'est vrai que tel que l'enseignement de la lecture est présenté aujourd'hui dans le système éducatif français, on va vers un enseignement et un apprentissage laborieux, pas joyeux. Je comprends que beaucoup de parents français soient dans une réflexion dès la maternelle sur voilà, qu'est-ce que j'apporte à mon enfant pour que ça se passe bien au CP. Je pense que c'est vraiment légitime, normal, et peut-être même heureusement que beaucoup de parents le font, parce que peut-être que les chiffres sinon seraient encore pires.
Céline Alvarez est linguiste de formation et pédagogue. En France, elle est devenue en quelques années un phénomène de société. Son best-seller, Les lois naturelles de l'enfant, récit de son expérience de 3 ans dans une maternelle de Gennevilliers, s'est vendu à 250 000 exemplaires. Sa conviction, c'est que les méthodes d'enseignement actuelles ne tiennent pas compte des mécanismes naturels de l'apprentissage, qui ont notamment été mis en lumière par les neurosciences. Si l'expérience n'a pas été validée scientifiquement, reste qu'elle a suscité l'enthousiasme du corps enseignant, des élèves et des parents, qui, selon elle, ont raison de se préoccuper tôt de l'apprentissage de la lecture.
Je pense que ça a toujours été un sujet, le passage en CP est, je pense, un petit peu anxiogène pour les parents. Et je pense que de plus en plus, parce que, avec raison, il y a quand même des statistiques sur les scores des enfants français en lecture et compréhension de lecture, qui sont pas bons du tout, voire catastrophiques, et de pire en pire chaque année. Donc ça m'a paru vraiment dingue. Donc je comprends tout à fait les parents qui ont cette angoisse et cette envie d'amener leur enfant à la lecture dès que possible, parce qu'ils savent que derrière, il y a des problématiques. Quoi. Le système scolaire n'y arrive pas vraiment, en fait.
Les chiffres auxquels elle fait référence sont ceux des évaluations annuelles menées par le ministère de l'Éducation nationale. Cette année, ces chiffres montrent qu'en CE1, 29,1% des élèves ont des difficultés à lire des mots à voix haute et 32,7% à lire un texte entier à voix haute. Et ces proportions sont en hausse depuis 2019. Parmi les données dont nous disposons pour évaluer le niveau des élèves français, il y a aussi l'enquête PIRLS, le Programme international de recherche en lecture scolaire. Il compare tous les 5 ans le niveau de lecture et de compréhension écrite des élèves à travers le monde. Selon les données de 2021, publiées en cette année 2023, la France commence à se stabiliser après 15 années de baisse des résultats. Elle a d'ailleurs mieux géré les effets du Covid sur le niveau scolaire que les autres pays, notamment en laissant les écoles ouvertes. Mais pas de cocorico en vue, on reste parmi les pays les moins bien classés. Quand je demande pourquoi ça ne fonctionne pas aujourd'hui, Céline Alvarez reformule. Pour elle, le problème n'est pas nouveau.
On a toujours eu un système éducatif extrêmement inégalitaire. En gros, c'est soit vous naissez dans un milieu socialement stimulant et favorisé et c'est bien pour vous, sinon bah, tant pis pour vous. C'est ça. L'école n'arrive pas à réduire les inégalités qui se créent dans les foyers. L'école française ne sait pas faire et c'est la pire d'Europe pour ça. On est les champions d'Europe du déterminisme social scolaire. Donc déjà, il y a 50 ans, ça n'allait pas. Et encore une fois, les retards étaient sélectifs. Il y avait 8 fois plus d'enfants d'ouvriers qui redoublaient, voire qui triplaient le CP. Et les enfants de salariés agricoles étaient 10 fois plus nombreux que les cadres supérieurs. Donc déjà, il y avait une inégalité criante qui ne s'est pas résolue, qui s'est aggravée. Et à ce moment-là, donc en 1973, la France avait déjà été interpellée par l'OCDE parce que le rendement de l'école française n'était pas bon. Donc, à votre question... Pourquoi aujourd'hui ça a du mal à fonctionner l'apprentissage de la lecture ? Moi je dis, ça n'a jamais vraiment bien fonctionné. En 1973, donc c'est la première étude de l'enseignement public, donc l'équivalent du ministère de l'Éducation nationale, qui a fait ses premières statistiques. Il y avait 19,3% de taux de retard en CP. Sauf qu'aujourd'hui, en plus, on a dans les pattes les écrans, une alimentation toxique, délétère, ultra transformée, qui encrasse le cerveau des enfants. Enfin, on est dans des environnements qui entravent de plus en plus un développement cognitif épanoui, harmonieux. Donc évidemment, si les méthodes d'enseignement n'ont pas changé, c'est pire. Mais c'était déjà pas bon il y a 50 ans, et même avant, c'était mauvais.
Pourquoi, dans un pays où l'on nous rabâche les oreilles de l'excellence à la française, les résultats sont si mauvais que les parents sont devenus obsédés par l'idée de faire le job eux-mêmes? Selon les données de l'OCDE de 2019, dans les pays scandinaves par exemple, un tiers des enfants apprennent à lire et à compter avant d'entrer à l'école. En France, c'est près de la moitié. La première des raisons, selon Céline Alvarez, c'est que la lecture, ça n'est pas un apprentissage comme les autres.
Allez, oh, is.
On pourrait être obsédé par les mathématiques et mettre des petits chiffres dans les mains de nos bébés pour être sûr qu'ils sauront compter le plus vite possible.
Mais où, petit poupou ?
Mais on ne le fait pas.
Mais on va où, petit poupou ? Vite, aux abris, il pleut.
On lit des histoires le soir, on leur apprend le son des lettres.
La lecture, on s'en préoccupe davantage parce que... La lecture, c'est ce qui va permettre à chacun de se dépasser, de s'émanciper, d'aller vers des connaissances qui vont permettre à chacun de se perfectionner, d'apprendre, d'être autodidacte. Enfin, je pense que c'est vraiment une clé de liberté. Je pense que les mathématiques aussi, d'une autre façon. Mais je pense que tout de suite, c'est quelque chose qui nous semble plus accessible et de prime abord plus important, plus fondamental. Lire, quoi. Lire, c'est la base. Enfin, c'est ce qui va vraiment faire la différence entre les personnes qui pourront se cultiver et les autres qui ne pourront pas. Les personnes qui pourront être autonomes et celles qui ne le pourront pas. C'est tellement fondamental. Même si c'est aussi important que les mathématiques, il y a quelque chose de plus primaire, en fait. Une personne qui ne sait pas lire, pas correctement lire, ne s'en sort pas dans la vie correctement, quoi. Et va se laisser trimballer par tout ce qu'elle va entendre, influencer. Il n'y aura pas une capacité à aller vers la connaissance, vers l'analyse. Voilà, je pense que c'est largement justifié de faire attention à la lecture.
Quand on va dans la littérature, on s'aperçoit qu'il y a plein de choses qui sont bénéfiques au développement de l'enfant. Je veux dire le sport, la musique, l'art, etc.
Le neuroscientifique Michel Desmurger, dans le grand entretien de la matinale de France Inter, le 24 septembre 2023.
Mais quand on regarde les études, on s'aperçoit qu'il n'y en a aucune qui a des effets aussi profonds, aussi unanimes que la lecture. Et du coup, on a envie de dire aux parents, voilà, mais mettez vos enfants devant des livres, lisez avec eux.
D'ailleurs, je ne sais pas si vous connaissez la chanson, je pense que vous la connaissez, de Jean-Jacques Goldman, Envole-moi. Voilà, évidemment, évidemment. À un moment donné, je crois que c'est dans le refrain, il dit « Je m'en sortirai à coups de livre ».
Je m'en sortirai, je te jure, à coups de livre.
Je franchirai ces murs. Et s'il le faut, j'emploierai des moyens légaux, donc la lecture, les livres, voilà, tout est là. Moi, j'ai la chair de poule à chaque fois que j'entends ou je redis cette phrase-là, parce que c'est ça, la différence entre les enfants des mieux défavorisés et les enfants des mieux favorisés, c'est qu'ils ont les livres, ils ont les outils, les clés de compréhension de la culture, des codes de la culture, ils l'ont, et donc ils passent toutes les étapes, ils passent toutes les barrières. Dans les mieux défavorisés, non. Et où mieux que dans les livres pour apprendre tout ça? Donc, la lecture, la lecture, la lecture, la lecture, il faut leur donner les armes, en fait, pour aller là où ils veulent aller.
La lecture, c'est donc un facteur d'émancipation et, en négatif, d'inégalité. En France, toujours selon les données de l'OCDE, l'apprentissage précoce de la lecture creuse encore plus ces inégalités sociales dès le CP. Et c'est un cercle vicieux. Les enfants sont très vite mis en compétition et les parents s'engouffrent de plus en plus tôt dans la course. Le problème, m'explique Céline Alvarez, c'est que ce n'est pas naturel pour notre cerveau d'apprendre à lire. Nous n'avons pas de circuits neuronaux naturellement prédisposés à engrammer les lettres, les formes visuelles des mots, à associer le son « che » à un « c » et un « h ». Alors que dès la naissance, un bébé a déjà un réseau de neurones dédié aux images ou aux émotions. Pour réussir à lire, le cerveau va devoir recycler une zone qui était dédiée à un autre usage.
Là, il y a quand même quelque chose de fort qui se passe. Donc c'était la zone en fait initialement dédiée à la reconnaissance des visages, des lieux et des objets. Et en fait cette zone, à mesure que les enfants vont être confrontés aux lettres, eh bien cette zone va progressivement se délocaliser dans l'autre hémisphère pour faire place aux lettres et aux mots qui vont progressivement s'encoder en fait dans cette zone dans l'hémisphère gauche. Et donc ça. Pour réaliser cet exploit, en fait, on parle de recyclage, de délocalisation du nerf cérébral, d'une réorganisation cérébrale. Tout ça, ça demande une grande plasticité cérébrale. Et les neuroscientifiques experts en sciences de la lecture nous disent bien qu'il faut que cet apprentissage-là se fasse pendant la petite enfance. Je cite, hein, c'est vraiment la petite enfance. Donc, petite enfance, c'est pas le CP. Parce qu'il faut profiter d'un grand pic de plasticité cérébrale pour que cette réorganisation cérébrale se fasse facilement. Sinon, en effet, après, c'est laborieux. Donc, il faut absolument, absolument profiter des premières années de vie où le cerveau est dans une incandescence plastique pour que le remodelage se fasse très facilement et dans la joie. Et c'est vraiment ce qu'on constate quand on donne le son des lettres aux enfants dès la maternelle, même un petit peu avant, hein, vers 2 ans, ils sont tout à fait réceptifs et ils adorent ça. Ben, quand on donne le son des lettres, ça rentre beaucoup plus facilement et surtout, ça se produit beaucoup plus facilement. Les enfants entrent dans la lecture et ils le font avec joie. Et on sent bien que là, derrière, quand on voit la différence entre les enfants de CP et les enfants de maternelle, on a presque l'impression, on sent derrière à quel point le remodelage se fait avec aisance et hop, se manifeste derrière par une entrée facile et joyeuse dans la lecture ou à l'inverse, une entrée plus laborieuse, plus pénible parce qu'on sent bien que derrière, ben, c'est plus figé, c'est plus difficile à faire bouger, quoi. Comment dire ? On a une école qui est vraiment pas neutre, c'est-à-dire que on a tendance à vouloir faire croire et à vouloir faire passer un concept d'école maternelle fondée sur le bien-être, où on va laisser le temps aux enfants. C'est pas du tout ça. En maternelle française, on préformate le cerveau des enfants à une entrée dans la lecture qui est erronée, en fait. Quand on donne et qu'on martèle pendant 3 années de manière systématique, avec évaluation, livret, le nom des lettres, les enfants arrivent en CP, ils connaissent bien, presque bien, le nom des lettres, et en fait, on leur dit « c'est pas ça ». Pour apprendre à lire, il ne faut pas connaître le nom des lettres. Tu oublies le nom des lettres, c'est le son qui est nécessaire. Donc les enfants qui ont déjà fait une réorganisation cérébrale à partir du nom, et dans un moment où ils ont moins de plasticité cérébrale, ils doivent déconstruire un apprentissage pour en faire un autre. Sur un item qu'ils ont déjà pendant 3 ans vu et revu, ils en ont marre. Ils n'ont pas envie d'apprendre le son des lettres ensuite. Sauf que bah, pour lire, il faut connaître le son des lettres.
A, B, C...
Selon Céline Alvarez, le problème, ce sont donc les méthodes d'apprentissage, et particulièrement le fait qu'en CP, on commence par apprendre aux enfants le nom des lettres. A, B, C, D. Selon elle, il faudrait apprendre le son des lettres. M pour le M, O pour le O, T pour le T, Ainsi, au lieu de lire « émotéo » pour « moto », ils liront « moto ».
Donc les enfants vont le déduire comme ils le peuvent, vont, voilà, avec de manière laborieuse. Et en plus de ça, ils auront travaillé pendant 2-3 ans les syllabes. On dit que ça les aide à entrer dans la lecture, c'est sûr que c'est mieux que rien, parce que ça aide les enfants à prendre conscience des unités sonores dans le mot. Sauf qu'en fait, pour lire, il ne faut pas connaître les syllabes, c'est-à-dire il ne faut pas savoir qu'il y a dans « éléphant », qu'il y a « éléphant », qu'il y a 3 syllabes. Ça, ce n'est pas très intéressant. Ce qu'il faut savoir pour entrer dans la lecture, c'est qu'il y a donc il y a « é », « l », « é », « f », « en ». Donc il y a 5 sons. C'est ça qu'il faut savoir. C'est la spécificité française. On apprend aux enfants des choses qu'ensuite, il faut absolument qu'ils désapprennent. Sinon, ils ne peuvent pas entrer correctement dans la lecture.
Cette spécificité française, selon Céline Alvarez, c'est en fait un symptôme. Un symptôme d'une idéologie dépassée de l'éducation. Le fond du problème, pour elle, c'est la rigidité de l'enseignement.
L'objectif principal, c'est d'apprendre à l'enfant à devenir élève. On n'est plus dans l'enfance joyeuse, épanouie, etc. On rentre à l'école maternelle pour apprendre à répondre à des consignes, pour faire ce que l'adulte attend, pour être élève, en fait. Donc, on n'est pas, par rapport à la Finlande, sur un apprentissage de bien-être, de confiance en soi, d'estime de soi, qui fait qu'après l'apprentissage, où il n'y a pas eu d'entrave dans les items d'enseignement, et donc du coup, les enfants arrivent en équivalent CP et hop, ils se lancent dans la lecture. En France, effectivement, c'est laborieux. C'est vraiment laborieux parce qu'il y a une très grande idéologie, un gros dogme autour de la lecture, et on veut absolument faire croire que c'est difficile, que c'est compliqué, parce que ça laisse à certains l'autorité. La lecture, c'est compliqué. Écoutez-nous, il faut faire comme ci, comme ça, ça ne s'improvise pas, etc. Alors qu'en fait, il n'y a rien de plus facile, la lecture. On donne le son des lettres, point, et les enfants se mettent à lire.
Oh non !
Visiblement, l'école ne suffit pas et les parents doivent s'y mettre, comme si on n'avait pas déjà assez de linge à étendre. Ce qui m'embête, c'est que tout ça alimente ma conviction que c'est une bonne chose d'anticiper l'apprentissage de la lecture. Et je me demande encore pourquoi, de quoi j'ai peur. Que tout se joue avant 6 ans, selon l'expression consacrée, qu'ils sont en retard, qu'ils soient le dernier de sa classe ou le premier des derniers.
C'est un mauvais objectif que de chercher que son enfant soit en avance. En avance sur quoi ? Sur qui ? L'important, c'est qu'il en soit là où lui a besoin d'être, en adéquation, en cohérence avec ses capacités intellectuelles. C'est ça qui est important. Et c'est ça qui va créer la confiance en soi. Si on propose à l'enfant des tâches qui sont suffisamment difficiles pour le motiver, mais pas trop compliquées non plus pour le décourager. C'est cette justesse-là dans les activités et les challenges qu'on va lui proposer qui va faire que l'enfant va prendre confiance en lui, va aller plus loin. Et il faut, je pense, en tant que parent, simplement essayer de nourrir son enfant au niveau de ses capacités en le suivant.
Je suis Marine Revol et vous venez d'écouter Fête des Gosses. J'espère que ça vous a plu et que vous aurez envie d'écouter la deuxième partie de cet épisode consacré à la lecture. On se demandera à partir de quel âge on peut commencer à familiariser les enfants avec les lettres, puis les mots. Et surtout, comment on le fait sans lui mettre de pression et bien sûr sans doubler sa charge parentale. Cet épisode a été réalisé par Anna Buis. La musique est de Jean Thévenin. Si ce podcast vous plaît, partagez-le sur les réseaux sociaux et mettez-lui plein d'étoiles et de commentaires. Vous pouvez aussi nous envoyer vos questions et vos notes vocales à hello@louismedia.com. J'ai hâte de vous lire.
Bonjour, ici Louis Vindel. Vous m'avez peut-être écouté dans Passage, aux côtés de Solal. Mais aujourd'hui, je vous dis deux mots sur Lettres Zola, une publication soutenue par Louis Média. La promesse de Lettres Zola, c'est d'amener la littérature dans votre boîte aux lettres. Chaque mois, recevez un texte original et inédit par une jeune plume française. Un petit livre d'une cinquantaine de pages, grâce auquel vous pourrez vous plonger dans un sujet de société et découvrir les nouveaux visages de la littérature contemporaine. Mathieu Palin, Blandine Rinkel, Arthur Dreyfus, Abigail Assor, François-Henri Désérable et bien d'autres. Vous pouvez vous abonner à partir d'un peu plus de 6 euros sur www.lettresola.fr. Bonne écoute et bonne lecture.
Selling a little or a lot? Shopify helps you do your thing however you cha-ching. Shopify is the global commerce platform that helps you sell at every stage of your business. From the launch your online shop stage to the first real life store stage. All the way to the did we just hit a million orders stage. Shopify is there to help you grow. Shopify helps you turn browsers into buyers with the internet's best converting checkout. 36% better on average compared to other leading commerce platforms. Because businesses that grow, grow with Shopify. Get a $1 per month trial period at shopify.com/work. Shopify.com/work.
Je présente mon billet, elle prend mon téléphone, elle agrandit, je vois qu'elle zoome, elle me dit « mais c'est un faux billet, madame ».
Et ce jour-là, je suis avec mon frère et je me dis « mais il se fout de moi ou quoi ?»
Je lui demande à quelle heure il rentre et là, il me ment sur l'horaire de retour et il me donne un horaire 3 heures plus tard.
Sur les coups de midi, je ne sais pas pourquoi, je vérifie mon application bancaire et je me rends compte que j'ai été débité de 400 euros sur mon compte bancaire.
Je vois le policier regarder son écran, on voit qu'il y a un pavé, quoi. Et là, il me regarde et il me dit « monsieur, je ne peux pas vous dire ce qu'il y a sur mon écran. Par contre, regardez-moi bien droit les yeux, fuyez. »
Je fais une marche arrière.
Et à ce moment-là, une jeune fille arrive en courant.
On lui hurle par la fenêtre que nous sommes toutes ses meufs.
Donc je lui dis « à toi, ramène ton cul ici tout de suite parce que ça va partir en cacahuète. »
Lover, voleur, une série de 4 épisodes tournée par Lizanne Larbani après son enquête dans Libération à propos de Lesti, le caméléon de Tinder. Et à écouter à partir du 22 avril dans Passage, notre podcast d'histoire vraie. À très vite.